Vous écoutez, on lit pour vous.
La fatigue de compassion dans une société capitaliste et patriarcale. Un texte de Catherine Côté, paru le 6 novembre 2023 dans la revue Nouveau cahier du socialisme. Capitalisme, colonialisme, patriarcat et intersectionnalité des mal-être. L'éthique du care n'est pas une éthique de la réciprocité, mais une éthique désintéressée. Nous ne nous soucions pas d'autrui pour nous acquitter d'une dette, ni pour que notre sollicitude soit récompensée, mais parce que sa vulnérabilité nous engage moralement. Caroline Ibos, Aurélie Damam, Pascal Molinier, Patricia Paperman, vers une société du care, une politique de l'attention. Dans une ère de pénurie de main-d'œuvre, de définancement et de privatisation des services publics, il importe de réfléchir aux soins et à la façon dont celui-ci s'intègre dans notre quotidien. Que l'on pense au manque de main-d'œuvre dans le secteur de la santé et des services sociaux, aux places en garderie qui se font rares, ou à la proche aidance qui est le lot de plus de 30% de la population active au Canada, la prestation de soins s'érige comme une question sociale et politique importante qui dépasse largement la sphère privée. Si prendre soin des autres est un don de soi remarquable qui contribue à la santé et au bien-être d'autrui, la personne qui offre ces soins peut voir sa santé et son bien-être significativement affectés. En effet, selon l'Institut de la statistique du Québec, 64% des proches aidantes et aidants ont diminué leurs activités sociales ou de détente. 50% ont réduit le temps passé avec leurs conjoints, conjointes, et 34,5% ont modifié ou annulé leurs vacances, des facteurs qui tous contribuent à l'épuisement. Dans ce contexte, il est juste de parler de fatigue de compassion, soit une forme d'épuisement émotionnel lié à la prise en charge d'autrui. La fatigue de compassion est une usure émotionnelle qui apparaît lorsqu'une personne est témoin de la souffrance d'autrui de façon répétée et se sent impuissante devant cette souffrance. Alors que la fatigue de compassion est largement documentée, son intersection avec les systèmes de pouvoir et d'oppression est moins étudiée. La fatigue de compassion semble pourtant amplifiée par certains systèmes sociaux. En effet, les femmes occupent davantage de rôles de care comparativement aux hommes. Par ailleurs, les impératifs de productivité capitaliste semblent dénaturer le don de soi désintéressé. Cet article explore la façon dont les dynamiques genrées et le capitalisme peuvent influer sur la fatigue de compassion chez les personnes qui prodiguent des soins. Le travail de care sera d'abord défini. On proposera ensuite des pistes de réflexion pour analyser la façon dont les dynamiques genrées du care et le capitalisme peuvent constituer un terreau fertile pour la fatigue de compassion. Care et épuisement, le poids invisible de la compassion. Le terme « care » se traduit particulièrement mal en français. Il est fréquemment traduit par « sollicitude ». Le « care » signifie à la fois « prendre soin de », mais aussi « accorder de l'importance à », se sentir concerné par, tenir à, être attaché à, ressentir de l'affection pour, ou encore avoir à cœur. La théoricienne John Tronto définit le care comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Le care exprime donc à la fois le geste et la préoccupation et comporte des dimensions cognitives, morales et émotionnelles, tout comme les gestes physiques et les paroles motivées par ces composantes de nature psychologique. Il inclut autant des activités rémunérées visant au bien-être physique et psychologique des autres, les professions du domaine de la santé comme les soins infirmiers, la psychologie ou le travail social, le travail dans le milieu communautaire, l'enseignement, mais aussi les tâches effectuées gratuitement. Que ce soit au sein du foyer familial, les tâches domestiques, les soins aux enfants, ou à l'extérieur, comme prêter main forte ou une oreille attentive à un proche dans le besoin, y compris la proche aidance. Le CARE peut aussi comprendre les actions militantes en santé pour l'environnement, pour la justice sociale, pour les droits des animaux, etc. Or, être dans un état de préoccupation et poser constamment des gestes pour favoriser le bien-être des autres ou de la société peut devenir épuisant. Les professions de soins sont largement associées à la fatigue de compassion dans la littérature scientifique. Toutefois, dans certains types de textes, la fatigue de compassion semble souvent mal mesuré et comprend une variété de facteurs de stress professionnel qui n'ont parfois rien à voir avec la compassion et l'épuisement qui peut y être associé. Sinclair et ses collègues parlent de la fatigue de compassion comme d'une expression en suremploi quand elle décrit l'épuisement professionnel dans le domaine de la santé. Cette expression serait potentiellement sous-utilisée dans le cas de la fatigue militante ou de celle des proches aidantes et aidants, toutes deux une forme de fatigue de compassion. En ce sens, la fatigue de compassion peut donc accabler toute personne qui se trouve engagée moralement par la vulnérabilité d'autrui et effectue un travail de CARE. Le CARE, une dynamique genrée qui vulnérabilise les femmes. Le CARE constitue, encore aujourd'hui, un ensemble d'activités hautement genrées. Traditionnellement, les femmes ont été perçues comme naturellement douées pour ce rôle et ont donc davantage été conditionnées à dispenser des soins. Cette assignation de genre a des effets sur elles. Non seulement elle limite leurs perspectives, mais elle les expose à un risque accru de fatigue de compassion en raison des attentes disproportionnées dont elles sont l'objet. Les femmes sont placées dans une situation de vulnérabilité de différentes manières, notamment sur les plans économiques et sociaux, ce qui peut contribuer à la fatigue de compassion. Vous écoutez « La fatigue de compassion dans une société capitaliste et patriarcale », un texte de Catherine Côté, paru le 6 novembre 2023 dans la revue « Nouveau cahier du socialisme ». Dans le système capitaliste, le CARE en tant que travail a des conséquences économiques importantes. Sur le plan salarial, les femmes qui occupent des emplois associés au CARE, socialement et historiquement dévalorisés, ont un salaire qui n'est pas toujours à la hauteur de leur investissement émotionnel. Effectué gratuitement, le CARE peut avoir pour effet de précariser financièrement les personnes qu'il pratique, majoritairement des femmes. En effet, plus de 20% des personnes proches aidantes vivent de l'insécurité financière. Il s'agit d'une préoccupation qui s'ajoute à la charge mentale de ces personnes et peut contribuer à leur vulnérabilité émotionnelle. Quelques statistiques du Conseil du statut de la femme illustrent le fardeau économique et émotionnel des proches aidantes. Plus nombreuses que les hommes, les femmes proches aidantes travaillent plus d'heures et manifestent un engagement qualitativement différents. Les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps plein en plus d'apporter de l'aide à leurs proches. Les femmes sont plus nombreuses à devoir quitter leur emploi, que ce soit de façon temporaire ou permanente, afin de s'occuper de leurs proches à temps plein, ce qui a inévitablement des conséquences sur leur situation économique. Les personnes proches aidantes ont des enfants à charge, 42% des femmes et 35% des hommes. Les femmes considèrent davantage leur responsabilité de proche aidante comme stressante, 40% des femmes, 22% des hommes, et considèrent que ces responsabilités ont des conséquences négatives sur leur vie familiale. Les femmes effectuent une plus grande variété de tâches qui exigent un engagement personnel et émotif plus intense. Ce sont souvent des tâches qui ont un effet direct sur la personne et qui doivent être accomplis systématiquement. Planifier et préparer les repas, organiser des rendez-vous, s'occuper de l'hygiène de la personne, acheter les médicaments, etc. Tandis que les hommes effectuent d'habitude des tâches d'entretien ponctuelles, peinture, rénovation, etc., qui ont un effet moins direct sur la personne et comportent donc une charge mentale ou émotive moins grande. Enfin, les femmes sont moins nombreuses à bénéficier du soutien financier du gouvernement pour leur travail de proche aidante et plus nombreuses à avoir un faible revenu. En plus des coûts psychologiques et des revenus perdus, les proches aidantes dépensent beaucoup d'argent pour les soins à leurs proches, soit en moyenne 7 600 $ par année, peu importe leur revenu. De plus, la proche aidance, tout comme les autres formes de care accomplies gratuitement, permet à l'État de faire des économies substantielles. Une étude indique que si ce travail était effectué par des employés du secteur public, il en coûterait environ 3,95 milliards de dollars à l'État québécois chaque année. C'est donc l'État qui bénéficie du travail invisible des proches aidantes pour lequel elles reçoivent bien peu tant financièrement qu'en termes de reconnaissance. Ces chiffres mettent en lumière la façon dont l'enjeu du soin dans nos sociétés dépasse largement la sphère privée et constitue une question politique importante. Cette situation économique, ajoutée à la dévalorisation de leur travail, peut accentuer le stress et l'épuisement et ainsi rendre les femmes plus vulnérables à la fatigue de compassion. Les soins prodigués aux autres et la préoccupation envers autrui peuvent également entraver le soin envers soi-même et la régénération de l'énergie nécessaire pour occuper cette fonction, déjà lourde émotionnellement. Au-delà des effets liés à la nature genrée de ce travail sur les femmes, les hommes, socialement éloignés des rôles compassionnels, vivent également les contre-coups de cette double contrainte. Ils peuvent se sentir détachés de leur propre capacité à prodiguer des soins, ressentir une pression à ne pas exprimer leur propre fatigue ou leur besoin de soutien et renforcer ainsi une dynamique genrée toxique et les risques d'épuisement. La combinaison du capitalisme et du patriarcat crée un environnement où les femmes sont à la fois poussées à prodiguer des soins et contraintes par un système qui dévalorise cette compassion, notamment en ne leur offrant ni soutien financier adéquat, ni reconnaissance. La reconnaissance du care peut être financière, crédit d'impôt, aide gouvernementale, salaire, etc., mais aussi sociale, accommodement au travail, changement d'attitude à grande échelle concernant la place du soin dans la société, humanisation des soins institutionnalisés ou désinstitutionnalisation et communautarisation des soins, etc. Individualisme et productivité, le prix de l'empathie dans le système capitaliste. Le capitalisme, en mettant l'accent sur la compétitivité et l'individualisme, crée un environnement où la compassion peut être perçue comme une faiblesse ou même une distraction au travail. La course incessante à la productivité et à l'efficacité laisse peu de place à la vulnérabilité et à l'humanité. Prendre soin des autres et faire preuve d'empathie deviennent un luxe, souvent inaccessible. Certaines professions exposent plus les praticiennes et praticiens à la fatigue de compassion en raison de leur proximité avec la souffrance humaine. Celles et ceux qui choisissent une profession d'aide, comme le travail social, la psychologie ou la médecine, se trouvent pris au piège. Être efficace ou rentable et, en même temps, profondément humain et compatissant. Les valeurs du marché rendent la compassion coûteuse car elle contrevient à l'impératif de rentabilité. Ainsi, ces personnes vivent-elles un paradoxe entre la productivité qu'on attend d'elles et l'empathie dont elles souhaitent faire preuve dans leur travail? L'épuisement qui résulte de cette incapacité à effectuer adéquatement leur travail tout en respectant les contraintes externes peut entraver leur capacité à prodiguer des soins de qualité, ce qui crée un cercle vicieux qui offre de moins en moins de soutien à ceux qui sont déjà vulnérables. L'exigence de productivité dans les emplois associés aux soins, où la productivité est difficile à quantifier, peut ainsi mettre en danger la santé des travailleuses et travailleurs et priver de sens leur travail. Le fait de travailler dans un milieu de soins et la charge de travail sont associés à la fatigue de compassion. Le soutien de l'organisation, des superviseurs et des collègues, tout comme la réduction de la charge de travail, peuvent affaiblir les facteurs associés à la fatigue de compassion. Mais dans le système de santé actuel, les professionnels sont encouragés à voir le plus de patientes et patients possible, le plus rapidement possible, ce qui contribue à la fatigue de compassion. De plus, ces conditions de travail ancrées dans la dévalorisation sociale de ces professions, enseignement, soins infirmiers, psychologie, éducation à l'enfance, etc., limitent l'autonomie professionnelle et peuvent décourager l'exercice de ces professions, ce qui contribue à la pénurie de main-d'œuvre dans ces secteurs. En effet, les contre-coups de la fatigue de compassion dans les professions liées au care comprennent une hausse de l'absentéisme et du roulement de personnel, une dégradation de la qualité des soins et de la satisfaction des patientes et patients, de même que des difficultés liées au recrutement et à la rétention du personnel. Par ailleurs, les conséquences individuelles comportent des sentiments de frustration, de déconnexion, d'intolérance, de mélancolie, de dépression et un manque de compassion pour les personnes qui reçoivent les soins, notamment. Dans un monde qui a plus que jamais besoin de compassion, nos structures sociales et économiques semblent presque conçues pour l'éradiquer. Prendre soin de l'autre devient un fardeau, une source de souffrance et met parfois en danger la santé de la personne aidante. Ce texte met en lumière le rôle du capitalisme et du patriarcat dans la fatigue de compassion et l'importance de reconnaître la valeur intrinsèque du soin, indépendamment des contraintes capitalistes ou des attentes patriarcales. Au-delà de la fatigue de compassion, le care peut avoir des effets grandement positifs sur celles et ceux qui le pratiquent, dont un sentiment de réalisation personnelle et de connexion aux autres. Il semble impératif de repenser la manière dont nos sociétés valorisent et soutiennent celles et ceux qui prennent soin des autres, de façon à favoriser leur bien-être, mais aussi celui des personnes soignées. Repenser les structures sociétales et organisationnelles pour valoriser davantage la solidarité et l'entraide pourrait contribuer à un environnement moins propice à cette fatigue. C'était « La fatigue de compassion dans une société capitaliste et patriarcale », un texte de Catherine Côté, paru le 6 novembre 2023 dans la revue « Nouveau cahier du socialisme ».
Les princesses ont toujours raison. Un texte d'Aurélie Marcirot, paru en juin 2023 dans la revue Lire, magazine littéraire. Précédemment, il nous a conseillé de nous foutre la paix, proposé de devenir narcissique pour sauver notre peau et invité à méditer quand tout s'effondre. Les titres des livres de Fabrice Midal résument bien son propos. Aider le lecteur à aller mieux dans un monde qui, lui, va mal. Docteur en philosophie, l'homme aux lunettes rondes et vestes de couleurs vives est le promoteur de la méditation en France. Quand certains trouvent son discours trop marketé, d'autres lui sont reconnaissants d'avoir popularisé la pleine conscience. Le titre de son dernier ouvrage, « Les princesses ont toujours raison », laisse au premier abord rêveur. À force de citer contes et légendes dans ses livres et conférences, il a décidé, explique-t-il, de les rassembler dans un ouvrage où se croisent en effet de nombreuses têtes couronnées. Chaque histoire révèle une leçon pour aujourd'hui. À la lecture moraliste de Perrault ou celle psychanalytique de Bettelheim, il ajoute une vision philosophique. Si Boucle d'or et les trois ours rappelle la sacralité de l'intimité, la Belle au bois dormant enjoint à savoir attendre le moment juste. On connaît la morale de résistance d'Antigone, moins celle de la Belle et la Bête, qui parle du consentement. La Bête ne peut être délivrée que si la Belle consent librement à l'aimer. Et une fois de plus, et malgré les risques, la Belle choisit de s'écouter elle-même, de faire ce qu'elle sent. Car, pour pouvoir consentir, dire un oui éclairé ou un non éclairé, il importe de savoir d'abord ce que l'on veut. Quant à la petite fille au manteau rouge, elle nous parle d'altérité et de la peur de rencontrer l'autre. Moralité de cet ouvrage, gardez les livres de contes et légendes des enfants. Ils vont encore servir, et pour longtemps. 1. Hansel et Gretel, ou le piège du bien-être. Il était une fois un frère et une sœur qui se prénommaient Hansel et Gretel. Leurs parents étaient si pauvres qu'ils n'avaient plus rien à leur donner à manger. Ils les abandonnèrent dans la forêt en espérant que quelqu'un pourrait les aider. En réalisant qu'ils étaient laissés à eux-mêmes, les enfants furent désespérés. Ils étaient persuadés qu'ils n'auraient jamais la force de sortir de cette épreuve. Nous avons si souvent l'impression d'être dans cette situation et de nous sentir démunis, seuls au monde, devant l'adversité. Nous ne voyons plus rien, nous nous laissons pétrifier par notre problème, aveugles à tout le reste. Hansel et Gretel avaient froid. Ils marchèrent tout droit, sans réfléchir, espérant naïvement qu'ils réussiraient ainsi à retrouver leur maison. Mais plus ils avançaient dans la nuit, plus ils se perdaient. C'est alors qu'au loin leur apparut une lumière. En s'en approchant, ils découvrirent une maison en sucre, et ils avaient si faim. S'ils avaient toute leur tête, ils auraient été un peu sceptiques. C'est quand même trop beau pour être vrai, une maison en sucre dans une forêt. Nous sommes nous-mêmes souvent dans un tel désarroi que nous sommes prêts à tout avaler. Nous cédons à cette attitude régressive par facilité, sans prendre le moindre recul, ce qui nous joue ensuite des tours. Hansel se précipita sur le toit et arracha un morceau qu'il dévora. Gretel s'empara d'une fenêtre. C'était en fait la maison d'une sorcière qui attirait les enfants avec ses promesses et ses sucreries, les engraissait jusqu'à bien les attendrir, puis les dévorait. Voilà une jolie métaphore de la niaiserie du bien-être et de la facilité auxquelles nous conditionne la société qui nous empoisonne et finit par nous détruire. Nous sommes séduits par tout un discours général sur le lâcher-prise, la zénitude fait de sucreries, de bonbons. Sur le coup, ce discours fait du bien. Pourtant, il nous empoisonne en nous déconnectant de la réalité. Hansel symbolise la béatitude du plaisir immédiat. Il se vautre dans les confiseries, engraisse et aiguise l'appétit de la sorcière. Mais un matin, pour qu'il grossisse plus vite, cette dernière l'enferme dans une cage. Désormais, elle lui apportera double ration à manger. Bien que prisonnier, le petit garçon se délecte. Il n'est plus en rapport avec la vie. Comme le dit Proust, on ne guérit d'une souffrance qu'à la condition de l'éprouver pleinement. Hansel n'éprouve rien. Il fuit dans l'aveuglement complet qui le conduit droit à la mort. La jouissance immédiate l'empêche de comprendre les implications de la situation dans laquelle il se trouve. Elle lui pose des œillères. Elle est notre incapacité de penser la crise écologique et le réchauffement climatique qui nous menacent. Notre incapacité aussi de sortir d'une zone de pseudo-confort, chez soi, au travail, dans des relations toxiques. Sa sœur, elle, est reléguée par la sorcière au rang de domestique. Si on regarde la situation par le filtre de l'immédiateté, on jugerait que Gretel a écopé d'une double peine. En réalité, c'est grâce à l'épreuve que cette petite fille fragile trouve en elle une ressource qu'elle ignorait. La force de l'intelligence. Elle ose questionner alors qu'elle pourrait se contenter d'obéir en échange d'une petite liberté de mouvement. Elle commence à regarder les choses, elle sort du plaisir immédiat ou de la peur immédiate. Elle est sur le qui-vive, elle accepte de ne pas savoir, elle accepte même que ce soit douloureux. C'est ce qu'on appelle la force de résistance. Il n'y a pas de résistance que lorsque l'on quitte le bien-être ou la peur, qui sont au fond les deux faces de la même médaille. Gretel se libère ainsi de la fascination inconsciente et dangereuse de la domination. Quand on est dominé par une personne qui a les pleins pouvoirs, on oscille entre la tétanie et la soumission qui demande le moins d'efforts possible. C'est alors qu'elle trouve la solution. Elle va tromper la sorcière malvoyante en lui présentant un os de poulet quand elle demande à tâter le doigt de Hansel pour s'assurer qu'il est bien gras. Elle affronte la négativité et trouve ainsi l'opportunité d'agir. Elle va finalement réussir à jeter la sorcière dans le four où elle a fait cuire tant d'enfants. La sorcière représente toutes les fausses promesses qui nous enferment. L'idée que tout va aller bien, que je n'ai qu'à me détendre, à attendre sans me poser de questions, que je suis malgré tout du bon côté du manche, que ce n'est pas si grave, qu'il y a plus malheureux que moi. En jetant ses fausses promesses au feu, Gretel devient libre. À la mort de la sorcière, les enfants ouvrent ses armoires et découvrent les joyaux qu'elle y a entassés. Grimm, à qui l'on doit ce conte, adopte ici le langage du mythe pour raconter, sous une forme imagée, la réalité la plus fondamentale, la réalité telle qu'elle est. Au sortir d'une épreuve, nous sommes toujours plus riches d'allant, d'enthousiasme, de fierté au regard de ce que nous avons accompli, réussi. « Pourquoi voudriez-vous, nous dit Raïk, exclure de votre vie une quelconque inquiétude, une quelconque souffrance, une quelconque mélancolie, alors que vous ignorez pourtant ce que produisent en vous ces états ?» Telle est la leçon de Proust, de Raïk, de la vie. Les épreuves se dépassent en les affrontant. Vouloir se protéger de tout, c'est engraisser et être dévoré par la sorcière par les fausses promesses. Vous écoutez « Les princesses ont toujours raison », un texte d'Aurélie Marciro, paru en juin 2023 dans la revue Lire magazine littéraire. 2. Cendrillon ou la fin de la plainte. Cendrillon n'était qu'une enfant quand sa mère mourut. Son père se remaria avec une femme peu commode qui avait deux filles, très belles mais au cœur noir et méchant. C'est une expérience que nous traversons quand, à cause des circonstances, il nous faut déménager, changer de travail, bousculer des habitudes qui étaient confortables, quand nous faisons face à des décisions absurdes, à des cadences infernales, en somme, quand le sort semble s'abattre sur nous. Cendrillon est maltraité, humiliée par sa belle-mère et ses demi-sœurs qui lui donnent ce surnom parce qu'elles l'ont mise du côté de l'âtre, de la grisaille, elles l'ont privée de lumière. C'est ce qui nous arrive quand la vie n'est pas douce. Nous sommes écrasés, par nos supérieurs, par nos proches, par des pseudo-amis. Nous ne sommes pas reconnus, nous nous sentons rejetés du monde. Et, comme Cendrillon, nous nous retrouvons à trier les lentilles que ses sœurs ont volontairement renversées dans les cendres. Voilà une jolie métaphore de la niaiserie du bien-être et de la facilité auxquelles nous conditionne la société, qui nous empoisonne et finissent par nous détruire. Mais Cendrillon ne s'enferme pas dans la plainte qui tourne en rond et qui est une justification de l'impuissance, du renoncement. Elle tente quand même de trouver un chemin en effectuant les tâches qui lui sont confiées, même si elles sont idiotes. Elle subit certes la situation, mais elle essaie néanmoins d'agir. La plainte nous évite de remettre en question ce qui nous arrive. On attribue la faute au destin, à la société, ou que sais-je encore, on accuse et, comme le dit Nietzsche, on s'enferme dans la figure du persécuté. Pour trier les lentilles, Cendrillon se fait aider par les colombes et les tourterelles qui symbolisent l'intelligence à l'œuvre. En fait, il y a dans l'attitude de Cendrillon quelque chose de profondément nietzschéen. elles ne restent pas dans le ressentiment contre la réalité, un ressentiment qui nous emprisonne en nous-mêmes, qui nous ronge sans déboucher sur rien de concret, de créatif. Elles continuent malgré tout d'aller de l'avant. Un jour, un grand bal est donné par le roi. Toute la famille est invitée, mais la marâtre refuse que Cendrillon y aille. La jeune fille, qui souhaite ardemment être de la fête, demande encore, insiste. Mais personne ne prend sa défense, personne ne la considère, et tous se moquent de ce caprice ridicule émanant d'une moins que rien. Or, Cendrillon, comme le dirait Lacan, ne cède pas sur son désir. C'est pourquoi sa marraine, la fée, peut l'entendre. La fée du conte, qui est le symbole de la créativité en nous, de notre capacité d'inventer des possibles. Nous avons tous en nous une fée, une forme d'intelligence prête à nous indiquer un autre chemin pour atteindre notre but, à condition de rester ouvert, curieux, attentif à la situation. Cet autre chemin n'est pas forcément parfait, miraculeux. La marraine de Cendrillon l'aide à se préparer. Elle transforme pour elle une citrouille en carrosse et des rats en écuyer. Elle l'habille d'une robe de princesse, mais l'autorisation de sortie s'arrête à minuit, heure à laquelle une fête bat son plein. Telle est la règle, la limite que Cendrillon doit accepter, à laquelle elle doit se plier. Il y a toujours des limites dans la vie. Je ne transformerai pas l'open space où je travaille en espace cocooning, mais en cessant de tourner en rond avec une plainte inutile et enfermante, en acceptant qu'il reste un open space, je verrai s'ouvrir devant moi des possibles auxquels je ne m'attendais pas. Cendrillon accepte la proposition de sa marraine et malgré les restrictions imposées, elle est prête à bénéficier de toute sa magie. Certes, cette solution n'est pas pleinement satisfaisante, mais au lieu de rester dans la frustration, elle choisit néanmoins de l'explorer. C'est ainsi qu'elle rencontre le prince, l'émerveille par la confiance et la joie qui jaillissent d'elle. Quand, au moment de partir, elle perd sa pantoufle, il la recueille et traverse la ville entière pour retrouver cette jeune inconnue qui a illuminé sa vie. Cendrillon ne s'est pas laissé décourager par les circonstances défavorables dans lesquelles elle évoluait. Le prince non plus ne se laisse pas décourager quand elle s'enfuit, peu avant minuit, et qu'il se retrouve seul, avec une simple pantoufle de verre pour remonter la piste de cet inconnu. Aucun des deux n'a baissé les bras. Nous aussi, dans la vraie vie, quand nous ne voyons autour de nous que la médiocrité, si nous ne nous décourageons pas, si nous ne nous réfugions pas dans la plainte, nous avons tous les atouts pour nous ouvrir à ce qui est, nous débrouiller avec les citrouilles et les rats et les transformer en carrosses et en écuyers. Mettre fin à la plainte, c'est tourner le dos à ses manières habituelles de vivre, de penser et de sentir. C'est refondre son existence. Libérer l'âme du ressentiment, c'est le premier pas vers la guérison. Écrit Nietzsche dans son magnifique Ecce Homo. C'était « Les princesses ont toujours raison », un texte d'Aurélie Marcireau, paru en juin 2023 dans la revue Lire magazine littéraire.
Roulotte, dis-moi ton nom, par Martine Bélan, paru dans la revue L'Inconvénient, automne 2023. J'ai beaucoup écouté Beau Dommage quand j'étais adolescente. J'aimais les harmonies. J'aimais l'union entre les voix d'hommes et la voix de femmes. J'aimais le jeu des guitares. Mais surtout, j'aimais les paysages de Beau Dommage. À Ottawa, où je vivais, les chansons de ce groupe nourrissaient ma nostalgie des villages, des falaises ou des champs bordant le fleuve Saint-Laurent. 2 heures du matin, tout le monde dort aux Escoumins. Je les écoutais en boucle sur mon Walkman jaune, en marchant dans les corridors de mon école secondaire. Nirvana y était plus populaire que les tierces majeures d'harmonie du soir à Châteauguay. Je les écoutais dans ma chambre sur mon minuscule cassettophone rouge. Capricieux, il ralentissait la musique quand ses trois piles C manquaient de jus. Je les écoutais les soirs de fin de semaine avec mon amie Isabelle, en parlant sans fin au lieu de dormir. Elle avait les albums en CD, un luxe. Rouler la nuit, en deux murs de sapin vert de gris, rouler la nuit. C'est bien simple, nous rêvions de tout laisser derrière et de partir en voyage avec Beaudommage. Quand j'entendais la voix de Pierre Bertrand, je l'imaginais dans une voiture défraîchie, une Volkswagen beige, disons, ou une Ford Pinto bleu ciel. Avec une amie endormie sur le siège avant et une guitare et des livres traînant sur le siège arrière, au milieu des chandails qu'il n'avait pas pris la peine de replacer dans les valises après la dernière nuit de motel, des cartes postales pas encore postées, des cartes routières pas encore consultées et des coquillages ramassés au gré des promenades sur la grève. Le moteur te ronronne au bout du pied, la ligne blanche te mène par le bout du nez. Laisse-la te mener, rouler la nuit. Je le voyais, Pierre Bertrand, roulant sur la route 138 de la Haute-Côte-Nord, que j'aimais avec timidité. Paysage familier, mais lointain, et qui, remémoré à partir de ma chambre en Ontario, me semblait le bout du monde. Je le voyais, Pierre Bertrand, roulant lentement dans son vieux char. Et tranquillement, au fil des accords, mon imagination modifiait les traits des personnages. Jusqu'à ce que ce soit moi. Oui, c'était bien moi qui étais assise au volant de la Pinto, entamant un tour du fleuve par la route 132, prenant le traversier à Rimouski, puis gagnant la 138 à Forestville, avec Isabelle et nos livres et nos cassettes et tout un univers sur le siège arrière. Rouler la nuit. Mais Pierre Bertrand conduisait peut-être simplement un pick-up tirant une Fusion, une Dutchman ou une Jamboree, toutes ses affaires bien rangées dans les tiroirs et les armoires d'une roulotte flambant neuve. Quand vient le temps de partir en voyage, certaines personnes prennent l'avion, d'autres embarquent dans leur voiture, d'autres encore optent pour le train ou l'autobus. Pour plusieurs, toutefois, le départ implique une Freelander, une Surveyor, une Zinger. Qu'est-ce qu'une roulotte pour porter de tels noms? Je me suis posé cette question peu avant la pandémie, alors que je faisais un voyage vers la Côte-Nord. Route 116, autoroute 20, route 138. Je partageais ces voies avec de nombreuses roulottes. Au début, aux abords du Richelieu, j'en croisais une ici ou là. Et en réalité, je les remarquais à peine. Mais à partir de la 20, elles étaient plus fréquentes. Il faut dire que cet été-là, j'avais choisi un moment typique pour partir, le premier dimanche des vacances de la construction. À cette date, c'est bien connu, les routes du Québec débordent. Nous étions trois à nous relayer au volant. J'étais donc souvent simple passagère et j'avais beaucoup de temps pour rêvasser en regardant le paysage. Les roulottes en faisaient immanquablement partie. Je les regardais avec fascination. Dans la voie de gauche ou la voie de droite, elles se ressemblaient toutes. Blanc et cru, avec un peu de gris ou de marron, ligne noire arquée, forme arrondie vers l'avant, volume immense. Pourtant, au-delà de leurs airs de sosie, il fallait bien que quelque chose les distingue, puisque parmi tous les modèles offerts chez Roulette Gagnon à l'Assomption, Roulotte Lupien à Saint-Cyril ou Roulotte Langlois à l'Ange Gardien. L'heureux propriétaire avait opté pour une Timberwolf plutôt que pour une Kodiak. Vraiment? Il avait réellement examiné l'offre, départagé les modèles et préféré une roulotte de telle marque plutôt qu'une autre. Mais peut-être était-ce justement là, dans la marque, dans le nom, que se cachait une clé. Pour comprendre l'attrait d'une roulotte, il fallait ignorer le ronron du moteur et tendre l'oreille à l'écho laissé par son appellation. Pour ce faire, ce n'est pas tant la fameuse formule d'Alain Badiou, maintenant reprise à toutes les sauces, qui me venait à l'esprit. Je ne me demandais pas « De quoi roulotte est-il le nom ?» mais plutôt, et plus modestement, « Pourquoi ce nom est-il roulotte ?» Indeed, pour citer Shakespeare, qu'y a-t-il en un nom ? Il y a des images et du rêve à profusion, ainsi que tout ce qui s'y rattache, de l'ambition, du fantasme, du désir. Mais il y a peut-être aussi, et paradoxalement, dans le cas d'un véhicule énorme, une certaine inertie et un certain vide. Ouvrir un carnet et y noter ce qu'on remarque est un passe-temps comme un autre. Mais lors d'un long voyage sur la route, cette activité anodine peut devenir une pratique quasi obsessive. Pendant plusieurs années, en traversant nos nombreuses provinces, j'ai collectionné les slogans municipaux. « La prairie, fais ton nid. » « La pocatière, c'est ici que ça commence. » Ou les noms de motels amusants. L'un de mes préférés est le « Loupi », si bien sûr à Rivière-du-Loup. C'est tout simple, j'aime les mots. C'est ainsi que cet été-là, vers midi, le premier dimanche des semaines de la construction, je me suis lancée dans une nouvelle collection, les marques de roulotte. J'étais loin de me douter que je m'engageais à remplir des pages et des pages de mots, tout à la fois chargés de sens et vides de signification. Tout un périple m'attendait. Ce qui était au début une activité comique est rapidement devenu une collecte étourdissante. Les deux adultes et les deux enfants avec qui je voyageais ont embarqué dans ce qu'ils voyaient comme mon jeu. Pour eux, la démarche était simple. Il leur suffisait de prononcer à voix haute la marque glanée lors d'un changement de voie ou d'un dépassement. Quant à moi, je devais tout noter en évitant les doublons et en essayant de voir clair dans cette logorée lexicale sans fin où des noms d'animaux sauvages côtoyaient des toponymes, où des mots étrangers voisinaient des désignations inventées, où le glossaire de l'aristocratie coudoyait le registre des valeurs. Compass et Clipper, J-Flight, par J-Co, longueur entre 28 et 40 pieds, vous offrant amplement d'espace pour vous sentir comme chez vous. Sunseeker et Sunset Trail, Big Horn ou Bigfoot, 23 pieds, 4683 livres, prix 2023 sur demande. Fallait-il les consigner en ordre alphabétique ou en ordre d'apparition? Fallait-il les regrouper par constructeur ou par champ lexicaux? Fallait-il noter leur région, leur couleur, leurs accessoires? Et surtout, fallait-il vraiment les écrire tous? Les pages de mon carnet tournaient toutes seules. Mon stylo donnait des signes de déshydratation. Je n'avais plus le temps de regarder le paysage. Je ne pensais plus à rien. Je notais, notais, notais. Apex, Alto, Helio, Oasis. J'en avais le tournis. Et pour la première fois de ma vie, à transcrire tous ces noms dans mon carnet, dont les pages, finalement, ne s'avéraient pas assez nombreuses. J'ai eu le mal des transports. Qu'y a-t-il en un nom et en des dizaines de noms? Certaines roulottes portent des noms étonnants. À l'ère des catastrophes naturelles et autres cocktails météo, pourquoi voudrait-on conduire un véhicule immense nommé Hurricane, 31 pieds, Lee King? Pourquoi irait-on de Lévis à Montjoli au volant d'une Innsbruck? Et pourquoi respecterait-on le code de la route tout en annonçant fièrement son étiquette d'outlaw? Certains noms sont farfelus. Leprechaun, ou penche vers le ridicule. Fleetwood Fiesta. D'autres sont contemplatifs. Réflexion. Certains évoquent des bêtes que tout le monde trouve mignonnes. Wolf Pop. Et d'autres, des bêtes que tout le monde évite. Hornet. D'autres encore évoquent... Eh bien, certaines évoquent pas grand-chose. Argosy. Mais le corpus des roulottes est-il un pur désordre? Leurs noms doivent bien signaler quelque chose. Cette collection, à vrai dire, m'a donné le sentiment d'être de retour en classe. Je me voyais m'asseoir dans un cours d'introduction à l'anthropologie culturelle. Au programme cette semaine, la distinction entre nature et culture. Dichotomie simpliste, direz-vous? Binôme éculé, hérité d'une autre époque? Détrompez-vous, car la lexicographie des roulottes véhicule ce clivage à la perfection. Prenons le premier de ces deux univers. Dans le monde des roulottes, les références à la nature abondent. Il y a des roulottes qui adoptent des noms d'animaux sauvages. Cougar, puma, wildcat. D'autres, des noms qui évoquent le ciel. Starcraft ou la forêt, wildwood. Certains noms renvoient à des éléments. Four Winds ou à des endroits précis. Denali, Aspen Trail, voire O2, Telluride, Copper Canyon. Autant de lieux communs qui sont loin de surprendre, la roulotte vendant en effet le rêve des grands espaces. Viewfinder, de la liberté, Freedom Express, et du bien-être, Serenity, que nous ne pourrons conquérir, semble-t-il, qu'à la condition de nous empresser, Swift, de fuir, Escape, la ville pour regagner les environnements naturels, Appalaches, et y poser notre nid, Hideout, de 35 pieds et 8110 livres, Dutchman Denali, modèle 318 RB, environ 50 000 $ pour un 2017. Carburant en su, toilette de porcelaine en prime. Face à ce déluge parfaitement naturel, s'élève le monde de la culture, ou plus exactement, le monde de l'homme. C'est que le lexique des roulottes est aussi composé de « types », pour reprendre la terminologie de Nietzsche, de véritables configurations humaines faites de pulsions et de désirs confus. À en juger par la marque de son véhicule, je conclus que le propriétaire d'une roulotte est parfois un « Avenger », parfois un « Surveyor », tantôt un représentant des « Sportsmen », tantôt un « Centurion ». Pierre Bertrand serait-il l'un d'eux? Et Michel Rivard, lui, plutôt un nomade ou un sénateur? Ces types, en outre, sont bien équipés. Sur l'autoroute 20, des sabres, des pace arrows et des bullets me dépassaient sans problème, toutes offertes en modèle 2022 pour 104 999 $, 312 561 $ et 40 000 $ respectivement. Choisissez votre blindé. Ces types, enfin, affichent leurs qualités. Ils sont brave, majestic, cavaliers. Rien de plus normal, puisqu'ils sont regal, ou du moins regency. En réalité, c'est toute une aristocratie et ses valeurs qui met son clignotant et qui entreprend un virage à droite. Surtout, ne nous laissons pas tromper par les roues, le réservoir à diesel, les bonbonnes de propane. Leur demeure n'est pas un véhicule. Non, c'est un château. 4000 $ pour un modèle 31 de 1993. Une aubaine. Qu'est-ce que ce lexique dit de nous, de notre culture des vacances, de notre rapport au paysage, au voyage, au déplacement? Révèle-t-il quelque chose de nos attentes ou de nos fantasmes par rapport à la propriété, au domicile, à la famille? En un mot, quel miroir les marques de roulottes nous tendent-elles? Ce miroir nous renvoie certainement au besoin de nommer, justement, et d'afficher en toutes lettres, le plus souvent à l'aide d'une calligraphie soignée, l'étiquette que l'on a choisie. Il semble qu'une roulotte, comme tant d'autres objets fabriqués, ne peut pas être qu'une chose ayant un volume, des arêtes, des couleurs, une texture. L'objet doit aussi succomber au pouvoir des mots. Il doit avoir un nom et il doit le crier haut et fort. Or, et le fait de porter un nom est justement typique d'un produit de consommation, c'est-à-dire de ces choses que l'on achète et remplace plus ou moins régulièrement au gré des saisons, des modes ou de leur obsolescence, que celles-ci soient programmées ou prévisibles. Rares sont les catégories d'objets, aujourd'hui, qui n'affichent pas leur marque. Mon yogourt, mon désodorisant, ma voiture, mon short de course, mon lave-vaisselle, mon verre, et jusqu'à ma plume et ma tablette de papier montrent leur nom. Mes meubles semblent être les seuls objets qui m'épargnent la vue constante de leur étiquette. C'est qu'on achète une table, n'est-ce pas? Pour la conserver pendant de longues années, non pour la remplacer d'ici deux hivers. En ce sens, en affichant toujours son nom, la roulotte nous rappelle qu'elle aussi est un produit de consommation. Mais elle est peut-être justement le produit de consommation le plus achevé, car sa nature, en effet, est hybride. Ni maison, ni meuble, ni simple véhicule non plus, la roulotte joue sur la gamme complète de nos fantasmes. Produire un nid familial à plus petite échelle, maintenir la routine de la domesticité, jouir du confort dont nous ne nous passerions plus, déplacer nos pénates où bon nous semble, puis contempler la nature tout en conservant l'essentiel des avancées fondamentales de notre civilisation. Micro-ondes, climatisation, douche, la vaisselle. Il n'est, somme toute, pas étonnant que la roulotte puisse porter des noms aussi variés. Le miroir que nous tend la roulotte nous renvoie l'image de ce que nous sommes déjà. Voilà peut-être pourquoi elle est si attirante. Ces dernières semaines, en Nouvelle-Écosse, le bulletin télévisé de CBC montrait des images de banlieues en flammes, 30 kilomètres à l'ouest du centre-ville d'Halifax et de routes entièrement fermées à la circulation dans le sud-ouest de la province. Nos forêts maritimes brûlaient, comme à leur tour la forêt boréale dans le nord du Québec et la forêt tempérée en Colombie-Britannique. Cette année, dans le ciel de Saint-Sauveur, ce n'est pas la lune qui brille comme une erreur, ce sont les flammes. Face à ces images, les annonceurs affirmaient candidement que tout le monde s'inquiète de l'ampleur des changements climatiques. Une telle affirmation est en voie de devenir un cliché, refrain simple d'une chanson à répondre dont les couplets évoquent la hausse du prix de l'essence, la hausse du coût de la vie, la hausse du niveau de la mer. Notre chanson gagne en intensité à chaque retour du refrain. Elle grimpe les degrés de la gamme à l'image de ces hausses qui nous inquiètent. Mais quand la chanson est terminée, que tous les couplets ont été entonnés et que le refrain a suffisamment été répété en chœur, chanteurs et chanteuses redescendent vers leur train-train quotidien. La canicule, l'inflation, la pollution retrouvent enfin leur corollaire, le transport, la consommation, les rénovations. Quand je repense aux airs de Beaudommage, j'entends une chose que les paroles n'ont pas consignée, l'insouciance. Car nous ne savons plus aujourd'hui si nous pouvons encore nous permettre de rêver d'un long road trip sur les routes sans fin de notre géographie. Rouler la nuit. Pour le simple plaisir? Et jusqu'où aurais-je le droit d'aller? J'ai l'impression d'avoir perdu les paysages de nos cartes postales. Je me demande parfois quel est l'horizon des roulottes dans ce nouveau monde. Comment peuvent-elles encore avoir la cote avec leur taille, leur soif, leur prix? Mais poser la question, c'est oublier que pour beaucoup de monde, après tout, elles sont depuis longtemps chalets. La roulotte n'est pas une niche dans le commerce du voyage. Elle est une variation de la villégiature. Comme son nom ne l'indique pas, cette fois, la roulotte, c'est aussi et beaucoup d'inertie. On ne l'achète pas pour rouler. Plutôt, on la roule pour la stationner, pour poser son nid et couver doucement ses œufs en parlant avec les voisins. Bien souvent, l'escapade estivale que propose la compagnie Jayco n'est pas un voyage, mais une demeure bien stationnaire dans un camping. Au fond, lorsqu'on les contemple d'un seul endroit tout l'été, les étoiles n'en sont pas moins belles. Après tout, elles aussi sont fixes. Elles prennent simplement plus de temps à éteindre leur feu. Avec le vent du fleuve dans les oreilles, me suivrais-tu pareil? Ça dépend, Michel. Honnêtement, ça dépend. Si tu tires une Capri ou une Flagstaff. C'était Roulotte, dis-moi ton nom, par Martine Bélan. Paru dans la revue L'Inconvénient, automne 2023.